Un troisième épisode du Café Bien-être en compagnie de Anne-Marie et Michel de l'association Jalmalve. Le thème de l'émission aujourd'hui, les directives anticipées, pour qui, pourquoi et comment.
Bonjour à tous.
Alors, en fait, pourquoi ce sujet aujourd'hui, donc des directives anticipées, on va vous expliquer ce que c'est. Et voilà, et comment les utiliser et comment les écrire. Voilà. Alors Anne-Marie, tu vas nous dire en fait aussi pourquoi on a choisi ce sujet aujourd'hui.
Oui, tout à fait Michel. Parce qu'en fait, ça fait quelque temps qu'on entend parler de la loi sur l'aide à mourir et ça a fait beaucoup couler d'encre tout ça. Donc, nous ne rentrons pas dans ce débat aujourd'hui, mais nous allons voir comment recueillir les souhaits d'une personne qui pourrait être confrontée à la mort. Alors, pour cela, il suffira de remplir un document nommé les directives anticipées. Mais en fait, pour mieux comprendre ces directives, nous allons faire d'abord un petit rappel historique sur la loi Claeys-Leonetti. Et c'est toi, Michel, qui va nous en parler.
Oui. Alors, Anne-Marie, est-ce que tu peux d'abord nous dire à quoi ça sert, les directives anticipées ? Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui ne savent pas ce que c'est, à quoi ça sert. Donc déjà, peut-être dire à quoi ça sert.
Eh bien oui, alors on va expliquer tout ça. Eh bien, elles sont destinées à recueillir vos volontés concernant votre fin de vie ou suite à un accident, dans la mesure où vous ne seriez plus en capacité de vous exprimer. À chaque hospitalisation ou entrée dans un service de soins ou de rééducation, il vous sera demandé vos directives anticipées et la désignation d'une personne de confiance. Nous allons en reparler. Toutefois, si vous ne souhaitez pas les faire, cela n'est pas obligatoire. Le risque, c'est que sans directives anticipées, c'est que la famille ne sache pas quelle décision prendre au niveau médical, si le patient n'est plus en capacité d'exprimer ou s'il ne peut pas prendre ses décisions par lui-même. Donc là, ce seront les différents membres de la famille qui devront les prendre, ce qui peut entraîner des désaccords au sein de cette même famille. Et donc là, ça va compliquer les choses. Donc s'il n'y a pas de proches ou de famille, eh bien, ce sont les équipes médicales qui prendront la décision à votre place si vous n'êtes plus en capacité de vous exprimer. Afin de mieux comprendre ce que sont les directives anticipées, nous allons faire un bref rappel historique dans différentes lois concernant les différentes lois qui se sont succédées depuis la mise en place des soins palliatifs. Puis nous répondrons à différentes questions que peuvent se poser toute personne quant à leur écriture et nous verrons comment accompagner à une personne à les diriger. Alors Michel, est-ce que tu veux bien nous parler de ce cadre légal qui est en lien avec les soins palliatifs ?
Alors en fait, il faut rappeler que les soins palliatifs, ou à l'époque comme on appelait l'accompagnement de fin de vie, ils se sont d'abord développés, alors pour l'Europe, en Angleterre, surtout en 1967, où Dame Cecily Saunders donc, avait mis en place des premières expérimentations du traitement de la douleur avec de la morphine. Et puis, finalement, en France, on s'est un peu modélisé voilà, par rapport à cette façon de faire. Et on a mis un peu de temps parce qu'il y a eu des commissions parlementaires, dont la première commission parlementaire de réflexion, où il y a eu des textes qui ont été rédigés, qui s'est mis en place en 1975. Donc vous voyez que c'est un peu ancien, mais ce n'était pas encore vraiment des lois, c'était plutôt des conseils. On commençait à prendre en compte le fait des soins palliatifs. Et la première loi, c'est la loi de 1995, qui donne obligation de soulager la souffrance et la douleur. Et on a vu donc la mise en place de consultations de la douleur dans les hôpitaux. Et ça, ça a été vraiment nouveau et intéressant, parce que dans ces consultations de la douleur, qui existent toujours, bien sûr, il n'est pas nécessaire d'être en soins palliatifs. Hein, c'est toute personne qui a des douleurs, qui a mal, qui peut aller dans une consultation de la douleur. Voilà, donc ça, c'est très intéressant. Et puis, petit à petit, il y a eu la loi donc, du 9 juin 1999. Et c'était en fait une loi qui visait à garantir le droit des malades. Et dans cette loi, il y a donc le droit à l'accès aux soins palliatifs et à un accompagnement par une équipe pluridisciplinaire, que ce soit en institution ou à domicile. Ceci, bien sûr, dans le but de soulager la douleur, mais aussi d'apaiser la souffrance psychique, de sauvegarder la dignité de la personne malade et de soutenir son entourage. Il faut rappeler que les soins palliatifs, ce sont donc des soins non curatifs qui prennent en compte le confort de la personne, donc soulagement de la douleur, mais qui accompagnent également la famille et les proches, c'est-à-dire que c'est un tout, hein, il n'y a pas que le malade. Donc quand on dit soins palliatifs, c'est une prise en charge globale, avec des soins qui peuvent des fois sembler curatifs, mais qui ont une visée palliative. Si je donne un exemple, vous avez quelqu'un, d'accord, qui a eu un diagnostic de soins palliatifs et qui est tombé du lit, qui s'est cassé une jambe. Bon, ben on va lui soigner sa jambe. Voilà, donc c'est un soin curatif, peut-être qu'il aura un plâtre, mais c'est dans une visée de prise en charge de cette personne en soins palliatifs. Cette loi stipule aussi, et ça c'est vraiment très très important, que la personne malade peut s'opposer à toute investigation ou thérapeutique. Hein, vous savez, il y a assez longtemps maintenant, une personne qui ne voulait pas du traitement, bien, on avait tendance à lui faire signer la pancarte et puis elle sortait. Voilà. Alors que maintenant, une personne peut rester à l'hôpital et refuser certains traitements ou certains soins. Donc cette loi a été très très importante. Et puis petit à petit, on est arrivé donc à la loi du 22 avril 2005, où les droits des malades ont été renforcés. Donc il y a eu là le droit du patient de refuser donc certains traitements, notamment en soins palliatifs, de refuser ce qu'on a appelé l'acharnement thérapeutique ou les investigations déraisonnables par rapport à l'état de santé de la personne, et qui a organisé les situations particulières des personnes en fin de vie et aussi des personnes hors d'état d'exprimer leur volonté. Et c'est là donc où on va arriver aux directives anticipées. Hein. Directives, c'est-à-dire que la personne va donner des directives qui sont anticipées par rapport à son état de santé. Aujourd'hui, je me sens suffisamment bien et j'ai la conscience pour dire en fin de vie, je ne voudrais pas telle ou telle chose. À un certain moment, peut-être que j'aurai plus la conscience ou plus l'état de santé ou plus la force pour pouvoir exprimer finalement mes désirs. Donc, cette loi de 2005 donc, instaure ce qu'on appelle donc, les directives anticipées et seront renforcées le droit d'accès aux soins palliatifs dans la loi qu'on appellera Claeys-Leonetti de ses, on va dire, de ses mentors, voilà. Du 2 février 2016, où là, il y a un petit changement. C'est-à-dire qu'on met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance pour permettre aux concitoyens d'exprimer leur volonté. Alors, la personne de confiance, Anne-Marie nous en reparlera tout à l'heure, mais c'est l'idée qu'on va avoir quelqu'un à qui on a donné nos directives anticipées et qui, si jamais un jour je ne peux plus m'exprimer, qui va garantir que mes directives anticipées seront respectées. Et il y a une nouveauté également dans cette loi qui est que, au final, c'est pas maintenant les médecins, si j'ai fait des directives anticipées, qui pourront vraiment prendre les décisions, c'est vraiment le droit du malade. Si en fin de vie je ne veux pas tel traitement, personne, normalement, ne pourra s'y opposer. Et c'est pour ça que rédiger les directives anticipées, c'est tellement important. Parce que ça va permettre donc une meilleure prise en charge de la souffrance et ça va clarifier l'usage de la sédation, et notamment de la sédation profonde et continue en phase terminale jusqu'au décès. On confond souvent la sédation et l'euthanasie, c'est pas du tout la même chose. Ce ne sont pas les mêmes produits, ce n'est pas la même intention. La sédation, c'est un endormissement de la personne qui partira quand le corps lâchera. Voilà, il n'y a pas de. Voilà. Et c'est vraiment important parce qu'on pourrait dire que grâce à cette loi et à la sédation, on peut vraiment bien accompagner les personnes en soins palliatifs dans, on va dire, le maximum de confort. Voilà. Maintenant, il faut que les soins palliatifs soient appliqués partout. Donc, avec les directives anticipées, chacun peut exprimer ses volontés sur la fin de vie, qu'il soit en bonne santé ou malade. Hein, on va donc continuer à clarifier en fait le rôle de la personne de confiance. Il faut être majeur hein, pour faire des directives anticipées et pour désigner une personne de confiance puisqu'elle aura des missions importantes. Elle pourra aussi vous accompagner dans vos démarches liées à votre santé. Et donc, on l'a déjà dit, si vous êtes hors d'état d'exprimer votre volonté, elle sera consultée en priorité pour l'exprimer. Elle pourra recevoir l'information médicale à votre place et sera votre porte-parole. Alors Anne-Marie, maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer comment finalement exprimer ces directives anticipées ?
Oui. Alors, cela se fait sous la forme d'un document écrit qui doit être daté, signé avec vos noms, prénoms, date et lieu de naissance. Dans le cas où vous seriez dans l'impossibilité physique d'écrire vos directives anticipées, quelqu'un peut le faire à votre place, mais le document n'est valide que si deux témoins attestent par écrit, en précisant eux aussi leur nom et qualité, et que ce document est bien l'expression de votre volonté libre et éclairée. Alors, libre, cela signifie qu'il ne doit pas être obtenu sous la contrainte. Et éclairé, ça veut dire que le patient doit donner son consentement après avoir bien reçu préalablement du médecin une information claire, complète, compréhensible et appropriée à sa situation. Ça, c'est vraiment très important, ce libre et éclairé, voilà, avant de pouvoir écrire ces directives anticipées. De plus, alors si vous le désirez, votre médecin peut ajouter une attestation indiquant que vous êtes en état d'exprimer votre libre volonté et que vous avez reçu les informations appropriées. Donc ce document peut venir s'ajouter aux directives anticipées. Lors de ces écritures, vous pouvez aussi formuler des souhaits et croyances de nature non médicale. Alors, ils ne sont pas considérés comme des directives, mais peut-être précisés pour aider votre médecin à prendre la décision qui vous correspond le mieux au moment voulu. Alors, par exemple, comme le disait tout à l'heure Michel, elle vous parlait de la sédation et il va y avoir la sédation et on peut en arriver à la sédation profonde quand la personne souffre vraiment. Et quand on arrive à la sédation profonde, là, le retour est quand même... Il n'y a pas de retour en arrière, quoi. Et dans ces moments-là, eh bien, peut-être qu'une personne, avant d'en arriver à la sédation profonde, souhaiterait peut-être avoir un ministre du culte pour pouvoir dire ce qu'il a sur le cœur ou quoi. Donc voilà, ceci peut être vraiment partagé. Donc je le redis, ce ne sont pas des directives médicales, mais c'est sur vos souhaits et elles peuvent être aussi précisées dans cette... avec vos directives. Voilà.
Alors, peut-être quelques informations donc importantes pour compléter. Ça peut être vraiment intéressant d'en discuter avec une équipe ou avec votre médecin, avec une infirmière, hein, sur vos attentes, sur vos craintes, sur vos limites concernant certains traitements ou certaines situations rencontrées en fin de vie. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même toute une technicité, hein, comme l'assistance respiratoire, la réanimation. Alors, la nutrition aussi, hein, est-ce que, voilà, on va continuer à manger de la même façon? Alors, peut-être pas. Et puis, l'hydratation artificielle, des personnes qui sont sous dialyse. Voilà, il y a vraiment des cas particuliers où chaque personne va avoir besoin, avant donc de remplir ses directives anticipées, d'avoir l'avis hein, du médecin pour vraiment se dire, voilà, dans ma fin de vie, qu'est-ce que, avec ma maladie ou avec mes traitements actuels, qu'est-ce qui pourrait se passer, qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce que je ne souhaiterais pas, qu'est-ce qui serait possible. Alors, il y a aussi, il faut rappeler, encore une fois, on va le rappeler hein, tout au long là, de cette émission, que rédiger ces directives anticipées, ce n'est pas obligatoire. Mais on va vous le demander, on va vous les demander à chaque entrée en établissement. On verra, hein, même pour une petite intervention, on vous les demandera aujourd'hui. Et qu'on l'a déjà dit, ne pas les rédiger, ça peut compliquer les choses, voilà, pour les proches, pour la famille. Donc, vous voyez, vous êtes libre et à la fois, c'est quand même intéressant d'y réfléchir. Alors, y réfléchir, donc, c'est tout ça, c'est avec son médecin, avec son équipe médicale, réfléchir avec sa famille et ça va permettre de parler d'une chose qui est tabou encore en France, hein. C'est parler de la mort, de sa propre mort. C'est peut-être difficile, mais on n'en meurt pas. On peut parler de sa mort sans en mourir. Et ça permet aussi d'avoir une communication avec sa famille et de s'apprivoiser avec sa famille, justement, par rapport à une fin de vie possible. Pas forcément demain, hein, mais voilà. Ça permet de dédramatiser un tabou. Alors, pour revenir aux directives anticipées, hein, une copie peut être conservée dans votre sac, dans votre portefeuille. Il est quand même donc fortement recommandé que votre personne de confiance en ait une copie. Et vous pouvez aussi en donner des copies à votre entourage, par exemple à vos enfants, ou donc à la personne de confiance, à votre médecin. On peut même le déposer chez le notaire éventuellement. Mmh. Vous pouvez aussi déposer vos directives dans Mon Espace Santé, hein, monespacesanté.fr, sur votre compte Amélie, à la rubrique Entourage et Volonté. Vous pouvez retrouver un tutoriel sur www.parlonsfindevie.fr. Voilà, donc vous pouvez consulter sur Internet des documents, on va dire, qui vous expliquent hein, comment les rédiger. Et aussi, donc, voir dans sur ces sites, vous voyez, avant de rédiger, vous voyez que vous avez le temps de réfléchir, le temps de vous informer. En cas d'hospitalisation, elles doivent être transmises et confiées au médecin et seront conservées dans votre dossier médical, qu'elles soient sur papier libre ou formulaire dédié. Alors, on vous a dit tout à l'heure que ce n'était pas obligatoire, mais on va vous le demander. Alors, qui peut rédiger donc ces directives anticipées? On en a déjà un petit peu parlé, mais Anne-Marie va nous le préciser.
Voilà. Eh bien, toute personne majeure, mais aussi toute personne qui bénéficie d'un régime de protection légale, par exemple une personne sous tutelle. Et dans ce cas, vous devrez demander l'autorisation du juge ou, le cas échéant, du conseil de famille. Alors, quand puis-je rédiger mes directives anticipées? Tu vas nous dire ça, Michel?
Oui, alors ça, c'est aussi une grande question qu'on nous pose. Hein, quand? Est-ce qu'il y a un moment particulier? Est-ce que, voilà, il sera toujours temps de les rédiger? On va dire notre conseil, c'est de dire qu'il est préférable de les rédiger alors qu'on est en capacité d'exprimer une volonté, donc Anne-Marie l'a expliqué, dite libre et éclairée. Il n'est pas nécessaire d'être malade ou âgé pour anticiper les conditions que l'on souhaite pour sa fin de vie. À l'occasion d'une consultation médicale, lors d'une hospitalisation ou d'une admission dans un établissement médico-social. Donc votre médecin traitant peut vous informer sur cette possibilité et aussi vous aider dans votre démarche. Alors ça peut être le médecin, ça peut être l'équipe de soins. En cas de maladie grave et évolutive, votre médecin doit vous suggérer de les rédiger, notamment pour formaliser les échanges intervenus entre vous. Vous voyez, parce qu'on peut en parler longuement avec son médecin, c'est quand même intéressant qu'il y ait une trace, voilà, de vos souhaits. Et alors, la grande aussi question, c'est oui, mais si je change d'avis, alors Anne-Marie, est-ce qu'on peut changer d'avis après les avoir rédigés?
Eh bien oui, totalement. Vous pouvez modifier totalement ou partiellement, voire annuler vos directives anticipées à tout moment et sans formalité. Celles-ci étant écrites, leur révision, c'est-à-dire de nouvelles directives anticipées, se fera également par écrit, et ce seront les dernières directives anticipées en date qui feront foi. Avant de vous assurer que les directives et leurs modifications éventuelles seront bien prises en compte et exécutées, vous êtes invité à garder l'original de vos directives anticipées sur vous. Les conserver chez votre médecin, dans votre dossier médical, le confier, comme on l'a déjà dit, à une personne de confiance désignée, comme tel ou à un tiers, par exemple un membre de votre famille, un proche. La mention de leur existence et l'indication des coordonnées de cette personne doivent également être accessibles. Oui, donc, si vous êtes hospitalisé, il est important que dans le dossier médical, vos directives anticipées, on sache, alors vous allez les déposer, mais il sera aussi noté que c'est cette personne qui les détient. Voilà, aussi. Alors, que se passe-t-il quand une personne est hospitalisée?
Oui, alors là, on en a déjà parlé. Hein, de toute façon, on va vous les demander et on va vous demander quelle est votre personne de confiance. Et il peut même y avoir certaines sorties qui vont être plus ou moins conditionnées à ce que vous ayez une personne de confiance. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est totalement obligatoire, mais c'est vraiment fortement conseillé. Et là, les directives anticipées vont être mentionnées et gardées dans le dossier médical, hein, par l'équipe médicale. Vous pouvez demander, bien sûr, une copie. Hein. En général, ils font une copie, ils vous rendent l'original. Voilà, mais eux, ils vont en garder une copie. Alors, peut-être que tout à l'heure, il faudrait peut-être revenir sur le fait, parce que vous dites, si on peut changer, comment on va changer? Parce que s'il y en a dans le dossier médical, s'il y en a un peu ailleurs, s'il y en a à l'EHPAD. Alors, c'est là où, si vous voulez changer, comme elles sont datées et signées, et il faudra juste marquer, voilà, dernière rédaction de mes directives anticipées avec telle date. Mmh. Et celle-là, il va falloir effectivement la redonner au dossier médical, la mettre au dossier médical, où tout à l'heure, tu nous parleras du dossier partagé. Hein. Voilà, c'est-à-dire que oui, c'est vrai, il y a une petite contrainte, que si on veut vraiment changer nos directives, il va falloir refaire le même trajet, hein, c'est-à-dire les redonner à la personne de confiance, les redonner à la famille.
Oui.
Voilà. Il y a cette petite contrainte qui va quand même garantir qu'à tout moment, on peut les annuler complètement ou changer totalement ce que l'on a dit tout à l'heure. Alors, si on est pris en charge à domicile, à ce moment-là, vous allez les garder à votre domicile, vous allez les donner certainement à l'équipe soignante et à votre médecin. Parce que qu'est-ce qui va se passer si vous êtes hospitalisé, que vous êtes à domicile et que vous êtes hospitalisé, à l'entrée à l'hôpital, on va vous les demander. Du coup, vous allez les emmener avec vous, avec votre dossier médical, si vous en avez un. Pour l'EHPAD, c'est la même chose, au foyer d'accueil médicalisé, on vous les demandera à l'entrée de toute façon. Donc, dans tous les cas, hein, il faut les garder et les amener avec vous. Ça donne une garantie supplémentaire. Alors, on a parlé également donc, d'enregistrer ces directives anticipées dans le dossier médical partagé, ce qu'on appelle le DMP, si vous en avez un. Donc, vous pouvez en ouvrir un. Et c'est le médecin qui aura à prendre en charge une décision sur les conditions de votre fin de vie, qui cherchera à savoir si vous avez rédigé des directives et à qui vous les avez confiées. Donc, il consultera en priorité votre dossier médical partagé, votre DMP, si vous en avez un, et à défaut, il s'adressera à votre personne de confiance ou votre famille ou vos proches, de toute façon à votre médecin traitant ou le médecin qui vous a adressé donc à l'hôpital ou à l'EHPAD ou au foyer, etc. Donc vous voyez que ça va quand même, il y a une sécurité, hein, et que cette sécurité sur ce que vous désirez va vous accompagner et vous suivre un petit peu partout où vous allez éventuellement transiter. Alors, il y a aussi une chose dont il faut parler, c'est qu'on a encore du mal donc, à parler des directives anticipées. On l'a dit parce que la mort, c'est un sujet difficile et puis c'est encore un peu tabou. Et les soignants aussi, ils ont des difficultés à parler des directives anticipées aux patients. Alors, Anne-Marie, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe ?
Oui, alors effectivement, comme tu le dis, les soignants ont encore des difficultés à parler de la mort. Et pour cela, il n'y a pas vraiment de moment idéal. On peut estimer que la personne, quand une personne est hospitalisée, parler de la mort, parler de directives anticipées sous-entend « je vais mourir ». Donc voilà, il y a ce tabou-là aussi. Mais on peut parler, si c'est avec parler de la mort avec un jeune, on se dit il est trop jeune. Avec une personne âgée, on se dit ah mais si on lui parle de la mort, ça veut dire qu'elle va mourir. Donc il y a toujours un peu, c'est jamais le moment quoi. Voilà. Donc et quand la personne a une grave maladie, eh bien on a peur de manquer de délicatesse. Ensuite, quand une personne avance dans l'âge, on peut avoir, donc, comme je l'ai déjà dit, peur de lui parler de cette mort qui renvoie quand même à soi. Mmh. Et là, ça demande aussi pour les soignants d'avoir eux aussi réfléchi à leur propre mort et à quelles directives anticiper eux-mêmes, eh bien... Quel choix ferait-il s'il devait être face à un moment où ils ne sont plus en capacité de prendre des décisions. Alors, parler de la mort et faire ces directives anticipées ne veut pas dire que cela va arriver demain. Exprimer ses volontés, c'est faire le choix de refuser une obstination déraisonnable, par exemple. Alors, tu en as déjà parlé tout à l'heure, mais on va quand même le redire que parler d'obstination déraisonnable, c'est lorsque des traitements sont poursuivis alors qu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Alors, ça peut être une réanimation, une personne qui est très âgée avec des problèmes cardiaques, dialysée et qui ferait un arrêt cardiaque et qu'on réanime, voilà, par exemple. Voilà, après, on a d'autres d'exemples. Mais tu parlais aussi de l'hydratation. Bon, ben, voilà, tout ça c'est pouvoir le poser. On a vraiment parlé de ce consentement libre et éclairé. Et la personne, dans ce cas-là, bien, voilà, en ayant eu suffisamment d'informations, peut vraiment poser les choses, voilà, en pleine conscience. Alors, comment nous, professionnels, que l'on soit soignant ou que l'on soit membre de la famille, comment peut-on aider une personne à rédiger ses directives anticipées ? Alors, il faut rappeler que lors de toute intervention, même bénigne, l'établissement vous demandera vos directives anticipées. Maintenant, c'est vraiment, c'est rentré dans... Comme on vous demande votre carte de sécurité sociale, on va vous demander vos directives anticipées.
Tout à fait.
Et donc ça, que ce soit en établissement de moyen ou de long séjour ou en EHPAD. Alors, vous pouvez demander conseil à vos soignants, aux médecins, à un psychologue, et aussi en parler à votre famille, vos proches, pour vous assurer sur leur écriture et parler de vos peurs. Ça, c'est très important parce que c'est souvent ça qui fait qu'on a du mal à les exprimer, c'est dire anticiper, parce que justement, il y a des peurs derrière. Alors, vous pouvez contacter l'association Jalmalve 04 pour une information sur les directives anticipées. À ce sujet, l'association organise des informations pour les équipes de soins et pour les familles et à toute personne qui désire être informée sur les directives anticipées. Alors, étant toutes les deux, Michel et moi, membres actifs de l'association Jalmalve, nous faisons un honneur au jeu À vos souhaits, qui a été présenté au congrès d'Antibes en mars 2028. Et en fait, c'est un jeu de cartes, À vos souhaits, qui a pour but d'aider les joueurs à évoquer leur volonté, leurs doutes et leurs sentiments. Donc, seul ou à plusieurs, il permet d'entamer un cheminement et d'être au clair avec ses choix avant de rédiger ses directives anticipées. Donc, sous la forme d'un jeu de cartes tout à fait anodin, eh bien, les questions viennent et vous permettent de pouvoir cheminer tranquillement en sachant,
ça se fait de façon, alors je dirais peut-être pas plus anodine, mais plus, on va s'apprivoiser.
Oui, c'est ça.
Voilà, moi j'ai envie de dire qu'on va un peu s'apprivoiser avec ce que l'on souhaite, parce que on n'y est pas encore. Donc c'est quand même important de se dire de quoi j'ai peur. Et tu parlais tout à l'heure des soignants.
Oui.
Je pense que les soignants, il faut qu'ils les fassent eux-mêmes.
Et oui.
Pour pouvoir, tu l'as abordé,
c'est ça.
Pour pouvoir eux-mêmes conseiller et aider une personne à les rédiger. Et c'est vrai que ce jeu de cartes, qui était dans un congrès donc, de soins palliatifs à Antibes, donc vous voyez sa date, c'était 2018, et ce congrès, en fait, on a voulu, à Jalmalve, on a voulu, pour dédramatiser justement cette prospective, cette réflexion sur... des souhaits. Donc faire ce jeu de cartes, où dans ce jeu de cartes, il va y avoir différentes situations. Et si je voulais telle ou telle chose, ou si je ne voulais pas telle et telle chose. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est d'arriver, comme tu le disais, Anne-Marie, à dédramatiser un petit peu ces choses et de pouvoir en parler aussi à sa famille. Alors, je ne sais pas si les personnes qui nous écoutent ont cette expérience. Moi, je sais que quand j'en ai parlé à ma famille, c'était « Ah non, hein, on ne va pas parler
c'est
de ça, ça maintenant. »
Tout
hein.
à fait.
Voilà, t'es... non.
C'est ça.
Donc, il a fallu, petit à petit, hein, ça se fait dans le temps. C'est pour ça qu'on conseille de s'y prendre. Alors, pas à 20 ans, on est d'accord, hein, mais de commencer à y réfléchir. Parce que c'est aussi quelque chose qui nous permet d'en parler en famille, d'en parler avec ses proches, et que ça permet d'apaiser un peu tout le monde.
Puis je tenais à préciser aussi que j'ai moi-même donc 20 ans, et je voulais savoir si par exemple les directives anticipées, ça pouvait être aussi pour un accident naturel. Par exemple, si demain je me fais renverser par un camion, si je vais au ski ouais. et que je me fais une commotion cérébrale et que mon cerveau, ben, enfin voilà, ou ça peut aussi se faire pour des situations comme ça.
Et oui.
Ce qui peut arriver à n'importe qui, n'importe quand et n'importe comment.
Tout à fait.
Tout à fait. Et par exemple, si il arrive un accident et que on se dit. Si j'ai telle et telle séquelle, vous voyez, je ne souhaite pas qu'on me réanime. Eh bien, on peut donc faire ces directives anticipées. Voilà, si on fait des sports de, voilà, qui peuvent être à risque, n'importe
sport
quelle personne. Sport
de combat aussi, ça peut très vite arriver qu'un mauvais coup à la tête et puis.
Absolument, absolument.
Directive anticipée, ça peut aussi se faire relativement jeune en prévision d'accidents qui ne n'arrivent pas qu'aux personnes âgées.
Tout à fait.
Voilà,
tout à fait.
C'est ça. On l'a dit en début, hein, c'est-à-dire que c'est soit vieillissement, maladie ou accident, effectivement. Hein, des choses que l'on ne voudrait absolument pas. Du coup, on va le poser hein, sur ces directives anticipées.
Merci.
Par exemple, pour répondre un petit peu à cette question, un jeune qui se dit, si moi je devais me retrouver, je suis tout à fait valide aujourd'hui, et suite à un accident, je me retrouve tétraplégique, ben voilà, c'est le genre de directive anticipée où je pourrais dire, voilà, si je devais me retrouver tétraplégique et complètement dépendant, si j'ai tel âge, ben peut-être que je ne le supporterai pas. Voilà, c'est aussi ce genre de choses, quoi.
Tout à fait.
Et ça voudrait dire que, ben, bien évidemment, il n'y aurait pas d'euthanasie, mais ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas d'obstination déraisonnable et que, on est d'accord, Michel ?
Oui, il n'y aurait même pas de réanimation.
Voilà.
C'est-à-dire que là, la problématique lors d'un accident, c'est qu'il y a obligatoirement réanimation. Hein, et c'est vrai que ça se passe tellement, tellement vite que s'il y a des directives anticipées pour dire, en cas de séquelles graves, donc tétraplégiques, si je dois être réanimé, je ne veux pas être réanimé. Vous voyez, voilà. Après, s'il n'y a pas réanimation, voilà. C'est sûr, comme tu le dis, il n'y aura pas euthanasie.
Hein. Voilà, c'est voilà. ça, tout à fait.
Mais on peut donc demander à ne pas être réanimé, quel que soit l'âge.
Voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est important de savoir voilà, que c'est quelque chose, comme tu disais, qui se réfléchit, qui se mûrit et qui n'est pas figé dans le temps. Parce qu'avec en vieillissant aussi, ben, on se rend compte qu'on n'aurait peut-être pas dit les mêmes choses non plus. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Quoi.
Tout à fait.
Alors, pour info, eh bien, le jeu à vos souhaits, vous pouvez le commander sur le site de la Fédération Jalmalve. Dont nous mettrons le lien en dessous du podcast. Voilà. Et donc, nous allons terminer cette émission aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, nous faire part de vos remarques ou demandes sur un thème que vous souhaiteriez voir abordé. Nous vous retrouverons, comme d'habitude, pour le Café Bien-être. Alors là, ça ne sera pas le premier vendredi de mois, ça sera le 8 mai, ça sera le deuxième à 10h, sur le thème « Dans la maladie, comment prendre soin de soi ?» Donc, pensez à envoyer vos questions en avance à Fréquence Mistral sur le mail digne@fréquencemistral.com. Et nous vous remercions pour votre écoute.
Et on vous dit
à très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
À très bientôt.